Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. Emma ne va pas bien. J'aurai besoin de 3 autres personnes dans la pièce. Elles se chargeront de la contention. Le père Steiger pourrait tenir un journal. Le démon usera de tous les moyens pour nous faire échouer. Nous devons être déterminés. Nous repousserons le mal dans les ténèbres.
Emma?
Satan et ses démons! Quittez le corps de cette servante de Dieu! Allez-vous-en! Allez-vous-en!
Bonsoir, bon vendredi, bienvenue dans les Radio X-Files spéciales Halloween en ce 31 octobre. Et nous aurons le plaisir ce soir, en ce spécial Halloween, de parler de films d'horreur qui sont tous basés sur une histoire vraie. Donc, tout ce que vous entendez est vrai. N'est-ce pas, Christian Page?
Tout ce qu'on entend est vrai, surtout ouais. Sur les médias sociaux.
Oui.
Non, effectivement, donc, pour ce spécial Halloween,
oui, Halloween.
J'ai choisi, donc, on va essayer de le... dépendamment du temps qu'on a, mais j'ai fait une sélection de 5 films, qui sont des films relativement récents, qui sont pas nécessairement mes meilleurs films, hein, parce que bon,
si on regarde dans toute la...
On a tous nos préférences, et dans l'industrie du cinéma, bon, ben, le thème de l'horreur a souvent été exploité au cours des 100 dernières années. Mais comme je voulais pas envoyer les gens chercher une espèce de perle rare des années 80, j'ai dit, bon, on va prendre des films qui sont relativement récents. Ce sont tous des films qui sont, postérieurs à 2020. Donc, ce sont des films qui sont facilement trouvable, oui. Sur des plateformes populaires, Netflix, Crave, et compagnie, là, Prime et donc ce sont 5 films, comme tu l'as mentionné, qui sont soi-disant basés sur une histoire vraie. Certains de ces films-là, on en a déjà parlé là au cours des à l'émission Radio X-Files, soit cette année ou l'an dernier ou il y a 2 ans lorsque les films sont sortis en salle, j'en ai probablement parlé. Je sais pas pour toi, Nick, mais moi je suis un très bon public pour les films d'horreur.
Ah oui, moi aussi. C'est drôle, je regardais Cinépop cette semaine où on fait un spécial film d'horreur, puis c'était Poltergeist dans les années 80. Puis ouais. Encore, même si j'ai vu ça des maintes et maintes fois, j'ai encore des frissons, encore des sauts.
C'est le fun que tu mentionnes le film Poltergeist parce que contrairement à bien des films qui ont été exploité comme étant basé sur une histoire vraie. Puis en fait, cette nomination, hein, basée sur une histoire vraie,
oui.
Hein, cet argument de publicité, ben c'est un argument qui n'a été développé de manière assez soutenue qu'à la fin des années 70. Et principalement avec la sortie du film Amityville. Hein, donc le premier film, l'original, qui va marquer là, toutes les suites et remakes de ce film-là, Amityville. Mais on avait d'autres films avant qui étaient sortis en salle, mais on n'a pas commercialisé ces films-là comme étant basés sur une histoire vraie, même s'ils l'étaient. Le plus célèbre d'entre eux, parce qu'on le sait maintenant, c'est le film L'Exorciste, hein, sorti en 1973, basé sur le roman de 1971 de William Peter Blatty. Et ce n'est que lors d'une indiscrétion, là, dans une entrevue, que Blatty dit « Oui, mais bon, le roman L'Exorciste... » Et Blatty, faut-il le souligner, il est également le scénariste du film, avait dit « Ben, cette histoire-là, je ne l'ai pas entièrement inventée. Je me suis inspiré d'un véritable exorcisme qui s'était tenu en 1949 en banlieue de Washington, D.C., dans un premier temps et dans un deuxième temps à Saint-Louis. au Missouri, et là, il raconte ça. Bon, il avait rencontré un prêtre jésuite qui lui avait côtoyé les prêtres qui avaient été impliqués dans cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'on a appris donc que le film L'Exorciste était en partie basé sur une histoire vraie. Mais c'est vraiment avec la sortie du film Amityville où ça va devenir un peu un argument commercial de dire basé sur une histoire vraie. Et là, où je voulais en venir avec le film Poltergeist, où, que tu as tout à fait raison, hein, c'est un film qui est sorti au début des années 80.
Ouais.
Et dans ce film, là aussi, c'est assez étonnant parce que même si c'était devenu un peu la mode de dire basé sur une histoire vraie, le film Poltergeist n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. Et pourtant, il l'était. Quand on a fait ce film-là, on s'était inspiré d'une histoire qui s'était produite sur Long Island dans les années 50, une affaire de Poltergeist qu'on avait appelée le Poltergeist Popper. Pourquoi Popper? Parce qu'à l'époque, l'une des caractéristiques de ces manifestations, c'était que les bouchons des bouteilles explosaient ou se dévissaient toutes seules.
OK.
Et donc, on avait baptisé le Poltergeist Popper parce que visiblement, le Poltergeist aimait ça, ouvrir les bouteilles ou faire popper les bouteilles. Donc, c'est une histoire qui, à l'époque, avait alimenté énormément la presse. Il y avait même des équipes de télévision qui s'étaient rendues sur place pour essayer de rencontrer la famille, parler avec eux et peut-être même filmer des phénomènes de poltergeist. Et cette histoire-là, donc, c'est une histoire qui est très connue, qu'on retrouve dans la littérature. Et c'est cette histoire qui servit de canevas de fond au film Poltergeist des années 80, mais okay. Dont il n'est absolument pas fait mention. Et même au moment de commercialiser le film, on n'a pas évoqué cette idée-là, cette histoire-là, qu'on s'était en partie, et très, il faut quand même le dire, là, de manière très, très légère, là, inspiré de cette histoire qui s'était produite dans les années 50, l'histoire du poltergeist Popper.
Ouais, très intéressant parce qu'au début, je finis la parenthèse de poltergeist là-dessus, parce qu'au début des événements un peu paranormaux, c'est la chaise de cuisine qui se déplace, là.
Oui, absolument.
Ouais, c'est ça. Fait que...
Et dans les cas de poltergeist, il faut quand même se rappeler que les phénomènes de poltergeist, ce sont des phénomènes qui se produisent de manière très spontanée. Donc, ça apparaît comme par exemple un mardi après-midi, ça commence. Donc là, des coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent. Contrairement à ce qu'on voit dans le film Poltergeist, et là, on voit qu'on est littéralement dans l'inspiration du réalisateur d'ajouter des fantômes, des apparitions, tout le reste. Mais dans le cas des poltergeists, il y a très rarement des apparitions. C'est généralement que des coups frappés dans les murs, des meubles qui bougent, qui se déplacent. Comme je l'ai mentionné, ça apparaît spontanément. Ça peut commencer donc un samedi après-midi à 14 heures et ça va perdurer pendant des jours, des semaines. On a quelques cas de poltergeists où ça a perduré pendant des années. Et puis, soudainement, ça s'arrête. Et on ne sait pas pourquoi. On a toutes sortes d'hypothèses, mais généralement, il n'y a pas d'apparition et il n'y a surtout pas d'éléments qui paraissent intelligents. C'est-à-dire qu'on n'est pas en présence de phénomènes où on a l'impression qu'on essaie de nous transmettre un message. T'sais, une table qui bouge, un coup frappé dans le mur, ça ne dit rien, ça. Là, donc, on ne sait pas trop. Même d'ailleurs, le mot poltergeist, dans le domaine de la parapsychologie, il est même s'il est adopté, il est quand même contesté dans la mesure où poltergeist, c'est un mot allemand qui veut dire un esprit tapageur ou bruyant. Donc, on fait référence à un esprit. Mais l'assentiment dans le milieu de la recherche en parapsychologie, c'est que ces phénomènes ne sont pas produits par des esprits, mais ils sont produits par des gens bien vivants qui sont généralement au centre de ces manifestations. Donc, ils le font de manière involontaire un peu. Je donne souvent l'exemple de Carrie White dans le film Carrie, là, le film adapté du roman de Stephen King,
ouais.
Où au début du film, là, quand des objets commencent à bouger autour de Carrie, un cendrier qui bondit en l'air, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, ce ne sont pas des esprits qui font ça, c'est Carrie qui involontairement provoque ce phénomène qu'on pourrait appeler de psychokinésie, donc l'action de la pensée sur la matière, un peu comme si la matière autour d'elle se mettait en résonance avec ses sentiments. Donc elle est en colère, mais au lieu de donner un coup de poing sur la table, ben il y a un coup qui résonne dans le mur. Tu vois un peu l'analogie?
Oui.
Donc c'est un peu ça les cas de poltergeist. C'est vrai que dans la plupart des cas de poltergeist, on a remarqué au centre de ces manifestations des gens généralement assez jeunes. On a longtemps dit des préadolescents ou des préadolescentes ou des adolescents-adolescentes, ce qui n'est pas toujours vrai. On a aussi de jeunes adultes, mais généralement, ce sont des, on a au centre de ces manifestations des gens qui ont des problèmes émotifs, qui traversent de mauvaises passes, comme on dit, et soudainement, on a l'impression que la matière autour d'eux se met en résonance avec leurs émotions par ces mouvements, ces coups frappés dans les murs. Dans le cas de, du Poltergeist Popper, dont le film Poltergeist s'est inspiré, quand les phénomènes vont débuter, on est en début de 1958, là, je pense en janvier ou février 1958, ben c'est des bouteilles hein, qui popent, hein, des bouteilles oui. de shampoing, les bouchons s'enlèvent, bon, et ça se renverse. Donc, c'est un peu ce qui se produit. Mais durant, toutes les manifestations, il n'y aura pas d'apparition de fantômes, tu sais, l'esprit, oui, je suis Jean-Paul et je reviens de l'au-delà. Non, on n'aura pas ça, là, tu sais, contrairement à ce qu'on voit dans le film. Parmi les rares cas où on a l'impression qu'il y a une manifestation intelligente, j'ai en mémoire un cas tout à fait exceptionnel. Je ne perdrai pas du temps pour en parler. Éventuellement, on pourra faire une émission là-dessus si ça intéresse les gens. Mais un poltergeist dans les années 1973 de mémoire, qu'on a appelé le poltergeist de la Machine. La Machine, c'est un drôle de nom, mais c'est un petit village en France qui s'appelait La Machine parce que au moment de la fondation du village, on avait installé une machine c'est l'expression que les gens utilisaient. La Machine, c'est une espèce de grue qui servait à remonter du minerai. On avait des mines, on avait retrouvé du charbon et de la houille, donc un minerai qui est proche du charbon, qui est combustible. Et puis on avait installé un grand manège en bois là, qui servait à remonter un peu le charbon et la houille du sous-sol. Et le village a commencé à être formé, ben on appelait ce gros manège en bois, cette grosse affaire en bois, on l'avait appelé la machine. Fait que le village, éventuellement, c'est devenu le village de la machine, à là où il y avait la machine, et le nom est resté. En 1973, il y a un curieux phénomène qui s'est produit dans une maison où là, on avait des coups qui résonnaient dans le mur, un peu comme ça s'est produit à Beauport, pour les plus vieux là, qui nous écoutent, en 89, rue Monseigneur Gautier à Beauport, il y a un mur d'une maison, mur mitoyen qui cognait de manière un peu sans qu'il y ait réellement un sens. Là. Ça frappait dans le mur, puis bon, à plusieurs moments dans la journée, j'y étais, là, donc j'ai été témoin visuellement de la chose. Mais il n'y avait, semble-t-il, pas une logique derrière ça. Mais dans le cas de la machine, en 1973, là, il y avait une espèce de discussion qui se faisait entre un petit garçon qui vivait sur place, qui s'appelait Dominique, et il parlait au mur, et le mur répondait à ses questions, puis bon, les gens qui venaient dans la maison parlaient au mur, et le mur frappait de la même façon. Donc, c'est un cas très particulier qui était très intéressant parce que la gendarmerie est allée sur place et un des policiers, le chef de la brigade, dénommé Guibert, l'agent Guibert, avait amené un magnétophone et donc on a des enregistrements qui ne sont restés. Hein. Donc, on entend l'officier Guibert qui demande au mur qui parle, c'est comme ça qu'on l'appelait, il demande au mur qui parle, oui, combien ai-je de balles dans mon pistolet? Puis là, ça résonne 6 coups dans le mur, puis là, ben, effectivement, il y avait 6 balles dans le chargeur. Donc, tu vois un peu le genre de contact. Mais ça, c'est très, très, très exceptionnel dans le cas des poltergeists. Cela étant dit, revenons-en à notre spécial Halloween. On a entendu en début d'émission un extrait de mon premier choix de film. Encore une fois, je précise bien, ce sont des films que j'ai choisis parce qu'ils sont des films récents. Pas forcément des films que j'ai appréciés, là, et même loin de là dans certains cas, mais néanmoins, ce sont des films récents et les gens peuvent les regarder parce que tous ces films ont tous cet argumentaire de vente, si je puis dire, ou de publicité qui était basé sur une histoire vraie. Donc, le premier extrait qu'on a entendu, c'est un film de 2025 qui s'intitule, le titre du film, c'est en français, là, je donne les films en français, Le Rituel, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Donc, c'est un film 2025 réalisé par David Meidel, et ça met en vedette Al Pacino, Dan Stevens et Ashley Green. Et ce film est basé sur, on nous dit, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Bon, en réalité, Emma Schmidt, là, elle s'appelait Anna Eklund. Et l'histoire d'Anna Eklund, c'est assez amusant parce que quand on présente le film et l'argumentaire au moment de la publication du film ou la sortie du film, c'était de dire, oui, ce film est basé sur une histoire vraie, l'exorcisme le mieux documenté de l'histoire des États-Unis ou un truc comme ça. Bon, c'est de la foutaise, là. C'est pas tout à fait vrai. L'histoire d'Anna Eklund, de son vrai nom, c'est une histoire qui est très intéressante, mais on a peu de documentation. Puis là, je passe rapidement parce que s'il faut que je fasse ça à chaque film, tu comprends, oui, qu'on n'en finira pas. On va faire un spécial de 2 heures. Mais bon, Anna Eklund, c'est une femme qui a connu 2 périodes d'exorcisme. Hein. On sait par des archives, là, on a bel et bien des archives au Vatican. Donc, en 1912, Anna Eklund, qui a 30 ans à ce moment-là, elle appartient à la communauté, c'est une communauté allemande. Hein. Elle est à Brooklyn, elle visite des parents à Brooklyn. Elle et ses parents sont d'origine allemande. Il fréquente donc la communauté allemande de Brooklyn. Et à ce moment-là, donc, Anna Eklund va aller rencontrer un prêtre. Et ce prêtre, c'est le père Théophilus Reisinger. Et elle raconte, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle va dire, mais visiblement, lui, Reisinger va faire une demande officielle pour un exorcisme. Et sans pas rentrer dans les détails, parce que c'est une histoire qui est très intéressante. Hein? Mais le père Reisinger, on sait que dans le document qu'il va transmettre au Vatican, il parle qu'Anna est allée le voir après une opération. Et le document mentionne également des gestes incestueux de son père. Et Anna, à ce moment-là, elle a 30 ans. Donc, sans mentionner le détail, mais comme le père Reisinger mentionne une opération, ça laisse supposer que c'est probablement un avortement. Et c'est suite à cet avortement, probablement un avortement qui est lié à une relation incestueuse avec son père, qu'elle est allée voir le père Reisinger pour la confession. Et donc, l'Église va autoriser un exorcisme. Donc, on sait qu'il y a eu ce premier exorcisme, alors qu'Anna Eklund est de passage à Brooklyn, c'était en 1912, et elle avait 30 ans à ce moment-là. Donc, on ne sait pas quel est le résultat de cet exorcisme, mais là, on avance dans le temps et on va se retrouver quelques 16 ans plus tard. À ce moment-là, le père Reisinger a été transféré à Marathon, au Wisconsin, où il officie, hein, et il tient ministère. Et Marathon est une communauté, un petit village qui est principalement composé d'immigrants allemands. Et il retrouve donc Anna Eklund. Elle vit là, à Marathon. Et donc, il la retrouve. Et là, Anna Eklund va lui dire que le diable est revenu, qu'elle se sent à nouveau possédée. Elle dit qu'elle est possédée par Lucifer, Belzébuth, Judas, Jacob également, son père défunt, dont elle a supporté les gestes incestueux, et également Mina, qui aurait été apparemment la maîtresse, qui était également la maîtresse de son père. Et crois-le ou non, cette même Mina était également la sœur de sa mère décédée. Le père incestueux aurait eu une relation avec sa belle-sœur, autrement dit, alors que sa femme était déjà atteinte d'un cancer. Donc, on voit que c'est un milieu assez sordide. Histoire sordide. Ce qui est étrange ici, essentiellement sur le plan religieux, c'est quand Anna Eklund dit qu'elle est possédée par Lucifer et Belzébuth, qui est techniquement la même personne. Donc, tu ne peux pas être possédé par l'un ou l'autre. C'est la même personne. Mais néanmoins, donc, ici, on a moins de documentation. On n'a jamais retrouvé de documents au Vatican, mais on sait que à ce moment-là, le père Reisinger, comme il vit à Marathon, il ne veut pas que la séance d'exorcisme se fasse à Marathon. Donc, il va contacter un collègue qui, lui, tient ministère en Iowa, dans un petit village qui s'appelle Erling. Et c'est Joseph Stanger. Et il lui demande, parce que juste aux côtés de l'église, il y a un couvent avec des nonnes. Et là, il dit, les nonnes pourraient accueillir Anna Eklund dans leur mur et on pourrait pratiquer l'exorcisme à ce moment-là. Et donc, tout ça est organisé. Et éventuellement, entre le mois d'août et le mois de décembre 1928, à ce moment-là, faut-il le rappeler, Anna Eklund est âgée de 46 ans. Donc, ces gens-là vont se retrouver à Erling. Ils vont procéder pendant ces mois des rituels d'exorcisme. Et c'est durant ces rituels, il y a plusieurs événements qui sont extraordinaires qui vont se produire, toujours selon les témoins. L'événement le plus sensationnel, c'est à un moment donné, Anna Eklund réussit apparemment à se libérer des sangles de contention et elle va, en s'échappant, elle va grimper au mur comme le ferait Spider-Man, et puis elle va aller se loger dans un des coins du mur. Donc, tu peux t'imaginer la séquence, là, un peu. Cette image-là a énormément été exploitée. On la voit d'ailleurs dans le film, hein, on ne peut pas passer aux côtés. Et ce que l'on sait de cet exorcisme, même si on nous dit que c'est l'exorcisme le mieux documenté, il est très peu documenté parce que il faudra attendre des années et éventuellement le père Reisinger n'écrira pas sur cette histoire-là. Mais le père Steiger va se confier à des gens puisqu'il est témoin des scènes. Il va se confier et éventuellement cette histoire-là, par l'entremise de personnes qui vont interroger le père Joseph Steiger. Ils vont écrire un petit fascicule pour l'Église dans lequel ils racontent l'exorcisme de Dan Aykland, mais à ce moment-là, l'exorcisme est davantage instrumentalisé pour être une leçon qu'on peut se procurer pour quelques cents ce petit fascicule dans les églises, et c'est une mise en garde de ne pas céder aux démons, etc. Donc tu vois, on va instrumentaliser l'exorcisme oui. pour envoyer un message aux fidèles, etc. Donc on a peu d'informations. On parle de manière très objectifs, on a peu d'informations sur cet exorcisme. Il y a eu quelques universitaires qui se sont penchés sur l'histoire, ont colligé de l'information à gauche et à droite. Ce qui en fait un cas très intéressant. Mais malheureusement, il faut vivre avec l'idée qu'on n'a pas beaucoup d'informations pour ce deuxième exorcisme, celui qui semble toutefois le plus spectaculaire et qui va alimenter en partie le canevas ou la trame de fond de ce film, Le Rituel, sorti il y a quelques mois, donc en 2025, mettant en vedette principalement Al Pacino, dont on a entendu la bande-annonce. Donc ça, c'était mon premier film.
Oui.
Deuxième, on en a parlé il y a quelques semaines, je pense, quand le film est sorti, c'était La Conjuration 4, Dernier Rite. On écoute la bande-annonce.
Le diable est arrivé en Pennsylvanie.
Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison.
8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées.
Donc, ça a commencé quand ?
À la confirmation des heures.
Le 7 septembre.
Il y a une présence dans le grenier.
Aide. Il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous.
Ah, les démons.
Ah, les démons, oui. C'est un sujet inépuisable au cinéma. Donc, c'est La Conjuration 4, les derniers rites. C'est dans la série des films La Conjuration. Hein. Il y a toute une franchise autour des films La Conjuration. Celui-là, c'est le quatrième. C'est soi-disant basé sur les enquêtes menées par un couple de démonologues américains qui étaient Lorraine et Ed Warren. Les deux sont décédés. Quelque part au milieu des années 2000 et elle, plus récemment, 2016-2017 ou dans ces alentours-là. C'est un couple qui est très, très, très controversé. Hein, faut quand même le dire. Certains même n'hésitent pas à les qualifier d'escrocs. Ce sont des gens qui arrangent un peu la vérité pour essayer de faire du fric avec les histoires. Donc, c'est très controversé. Mais néanmoins, ça fait, somme toute, des films assez divertissants. Le film, La Conjuration, ça met en vedette Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le rôle de Ed et Lorraine Warren. Et ça tourne autour d'une histoire que dans le milieu de la parapsychologie ou dans ce milieu-là de l'étrange et de l'insolite, on appelle la hantise de la famille Smurl. Donc, pour faire une histoire courte, en 1973, les Smurl vont acheter une maison à West Pittson, en fait, en Pennsylvanie. On est à peu près à 2 heures de route là, au nord de Pittsburgh. Et c'est une maison, donc, qui est comme séparée en deux. Donc, d'un côté, il y a la famille Smurl et d'un autre côté, il y a les parents côté paternel, donc de côté de Jack Smurl, qui vont habiter là. Et la famille Smurl sont des gens, là, fin de la vingtaine, début de la trentaine pour les parents. Jack a 30 ans, Janet, son épouse, 26 au moment d'emménager. Et lorsqu'ils emménagent, Ils ont deux enfants, deux filles jumelles, et puis par la suite, il y a une autre fille qui va naître. Mais donc, au moment où ils emménagent dans cette maison-là, ils vont constater assez rapidement des manifestations qui vont perdurer pendant des années. C'est quelque chose qui va durer assez longtemps dans le cas des Smurls, donc coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Les Smurls sont des gens excessivement croyants, il faut quand même le dire, et donc, ils vont rapidement associer ça à des mauvais esprits, mais... ils réussissent à contrôler assez bien la situation. Et éventuellement, donc, en décembre 1985, donc, tu vois, on est 12 ans plus tard. Donc, ça fait 12 ans que les Smurls vivent avec ces manifestations dans leur maison. Et là, à ce moment-là, ils vont décider de contacter, pour essayer d'en finir, ils vont contacter le couple Warren, dont on a parlé à la télévision. Et de temps en temps, des journaux parlaient des aventures ou les enquêtes menées par les Warren. Et les Warren, donc, vont se présenter sur place. Et dans le cas des Warren, ce qui est assez particulier de leurs enquêtes, c'est que ça se termine toujours avec le démon. Quand les Warren sortent pour aller enquêter quelque part, tu es sûr que ce ne sera jamais un petit esprit, le genre Popper, qui fait sauter des bouteilles de shampoing. Ce ne sera pas ça. Tu es sûr que, ultimement, ça va se terminer avec le diable, le démon et toutes les forces de l'enfer. Il faut dire aussi que les Warren sont un peu des grenouilles de bénitier. Ils utilisent beaucoup leurs enquêtes pour en même temps faire passer leur message religieux. Donc, il est le grand bon Dieu, puis Jésus, puis la foi. Puis c'est très important dans les rituels des Warren. Donc, le film est basé sur l'affaire des Smurls. Il va y avoir un livre qui a été publié quelques années après, là, dans les années 80, qui s'appelle The Haunting, l'histoire de la hantise des Smurls. Et éventuellement, donc, ils vont vendre la maison, déménager. Disons que pour toutes ces manifestations, il y a quand même des contre-investigations qui ont été menées pour lesquelles on peut trouver des explications assez rationnelles. Par exemple, M. Smurl, qui, pour économiser des sous, lorsqu'il a acheté la maison, il y avait énormément de moisissures et au lieu de... il a simplement mis de la chaux sur les murs et recouvert les murs après ça de préfini, donc un revêtement de préfini. Donc, si tu n'enlèves pas la moisissure, ben éventuellement, on le sait, la moisissure, c'est pas pour rien qu'on nettoie des canalisations. Vivre dans un milieu où il y a plein de champignons, bien évidemment, ça peut entraîner parfois des impressions, ça va avoir des effets sur la santé, mais également sur notre perception de la réalité, avoir certains effets, j'irais pas jusqu'à dire psychotrope, mais à nous donner une impression altérée de la réalité. Ensuite, les Smurls disaient, on sentait des odeurs très nauséabondes dans la maison. Oui, mais ça, c'était propre à tout le quartier parce qu'il y avait des problèmes d'égout très importants dans le quartier. Et ça a été une enquête menée par des journalistes. C'était pas propre à la maison des Smurls d'avoir des mauvaises odeurs, c'était propre à tout le quartier. Donc, on avait des tentatives, il y a des explications qui étaient proposées, qui étaient tout à fait terre à terre, mais évidemment, c'est pas celle que favorisaient les Warren dans leur investigation. Pour eux, c'est forcément le diable, le démon et tout le reste.
Évidemment.
Et donc, le film, La Conjuration 4, Les derniers rites, au pluriel, est basé sur l'investigation des Warren dans l'affaire de la famille Smurl. Donc, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce film-là. C'est peut-être l'un des plus... Dans la saga des films La Conjuration, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai trouvé le moins intéressant.
Okay.
Mais néanmoins, c'est sorti, un film 2025, donc on peut... Il vient tout juste de sortir sur les plateformes, Netflix et tout le reste. Je ne sais pas sur quelle plateforme il est disponible, mais il vient de sortir sur les plateformes, donc les gens peuvent le voir. Puis bon, prendre avec un grain de sel. Lorsqu'il est question des Warren, puis on nous dit basé sur une histoire vraie, c'est quelque chose à prendre avec un grain de sel.
Alors.
On va prendre une pause, si tu veux bien.
Oui. Allons-y, au retour, il y aura. D'autres films, dont La Conjuration, le troisième volet.
Oh, le troisième volet, oui.
Et un film que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est L'Exorcisme du Vatican.
L'Exorciste du Vatican.
Oui, voilà.
Absolument.
Alors, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files spéciales Halloween.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Ouellette. En direct.
D'ailleurs, là, c'est quoi le rapport? Sur Facebook, j'ai des pubs de cocaïne. Avez-vous ça, vous autres?
Hein? Des pubs de cocaïne?
Oui! C'est marqué Boost Your Day.
Ben voyons! T'as joué?
Comme s'ils vendaient des produits naturels.
Ouais. Facebook autorise ça.
Meta. T'sais, tu vois un bout de mamelon, mon gars, Meta, les alarmes partent, les sirènes. Illégal, illégal! Puis là, on est en train de vendre de la poudre, là. Ça, c'est pas grave, ça part.
Ouellette, en direct.
Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Présenté par l'entrepôt de la Renault. Pour vos Renault au meilleur prix, on vous attend maintenant au 9030 rue John Simons, coin Henri IV et rue Jean H. Kruger, Trois-Rivières. Entrepôtdelarenault.com.
Ici Martin Ma. Avec son programme imbattable, Maxi égale les bas prix des autres épiceries sur présentation d'une preuve. Donc, techniquement, leurs bas prix sont aussi nos bas prix. Alors cette semaine, leur pub dans votre tête devrait sonner comme ça.
C'est les prix fou 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 chez Maxi. Profitez de bas prix sur les fruits et légumes croquants partout chez
Maxi.
Sans oublier nos délicieuses coupes de viande. Pour de la qualité à bas prix,
Maxi,
c'est la place.
Ben oui, Maxi. Imbattable.
Les conditions s'appliquent, détails en magasin.
Avec le groupe Nano, qu'acceptez votre soumission de Bardot en 10 jours et vous pourrez bénéficier de notre rabais éclair allant de 250 à 1050 $. Ou prévoyez de changer votre revêtement extérieur pour le printemps prochain et profitez du Renault rabais extérieur allant de 200 à 1500 $. Appelez-nous pour plus de détails au 581-985-6949. Visitez le nanook.ca, N-A-N-U-U-Q.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Maison Adam.
Dès maintenant, profitez des meilleurs rabais de l'année avec les experts de Maison Adam. Rendez-vous en magasin au 710 rue Bouvier ou visitez maisonadam.ca et bénéficiez des prix du Vendredi fou garanti sur une foule de produits. C'est l'occasion parfaite pour éviter les ruptures d'inventaire ou l'attente créée par l'engouement de cette promotion spéciale. Alors, n'attendez plus.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Nathalie Savard, agente officielle.
Dimanche, le 2 novembre, nous devrons choisir. Quatre années de Bruno Marchand avec son tramway et plus de taxes ou voter pour un véritable changement à Québec. Dans les 100 premiers jours à la mairie, Sam Ahmad va agir. C'est terminé pour le tramway et la taxe Marchand de 60 $ sur l'immatriculation. Avec Sam Ahmad, c'est zéro nouvelle taxe. Un nouveau SRB+ qui ne fait pas la guerre à l'auto, 12 versements sans frais pour vos taxes et Québec va se développer. Sam Ahmad va écouter les gens et amener du vrai changement.
Ici Sam Ahmad. Dimanche prochain, je compte sur vous.
La confiance, c'est savoir que l'on est prêt à faire face à tout ce qui se présente. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on entreprend une journée de travail avec Cintas. Il s'assure que vos DEA sont à jour, vos armoires de premiers soins sont approvisionnées, vos tapis sont nettoyés et livrés, et vos vêtements de travail sont beaux, agréables au toucher et fraîchement lavés grâce au programme de vêtements de Cintas. Alors, êtes-vous prêt à affronter la journée? Visitez cintas.ca/fr et soyez prêt pour la journée de travail.
Salut, moi c'est Martin. J'ai une hernie discale. C'est tellement douloureux que je multiplie les visites à l'urgence, les absences au travail, puis je peux même plus jouer au hockey comme avant. Mettons que je trouve le temps long.
Martin était bien découragé. Mais l'espoir est revenu depuis qu'il a consulté les professionnels du Centre de correction vertébrale. Grâce à la décompression discale, Martin a repris sa vie là où il l'avait laissée.
Croyez-moi, le Centre de correction vertébrale, c'est la clé pour votre santé.
À Sainte-Foy-Lévis-Pont-Rouge et au centre CVQ.com.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent sa promo 2 repas pour 26 $ au comptoir à emporter ou 2 repas pour 30 $ en livraison parmi 5 plats vedettes.
On n'a peut-être pas créé Dracula, mais on peut te faire sortir de ta tombe. Même les vampires n'ont pas notre mordant. Ici, on a toute la magie qu'il faut pour faire décoller ton balai. Tous les jours de 9h à 23h, Gentleman Paradise sur l'avenue Branly. Gentlemanparadise.com.
Capsule
Radio X.
Tout le mois d'octobre, profitez d'un financement à 0% sur 84 mois sur tous les tracteurs compacts Mahindra à votre centre agricole. Prenez le contrôle, gagnez de l'autonomie cet hiver. Détails sur centreagricole.ca. Mahindra, sortir des sentiers battus. Chez Pièces Auto Économiques en octobre, économisez gros. Brake Max, offert à 10 % de rabais ou nos plaquettes de frein Bosch. 15 % de rabais, 15 % sur les essuie-glaces Bosch Clear Advantage dans nos 9 magasins, 5 centres de distribution et au pièceséconomique.com. Vous rêvez de vignobles d'Italie, d'un café à Paris ou le charme de l'Andalousie? Melguimette, Voyage Aquaterra, Lévis, Québec et Sainte-Marie rend possible tous ces circuits. Il reste juste à faire vos valises. 418 741 3437. Le tramway, on l'attend encore, mais SG Énergie, eux, ça livre pour vrai. Mazout, carburant, lubrifiant et jusqu'à 15 % de rabais avec le code SG981. SG Énergie, du service, pas des promesses. 660-8888, certaines conditions s'appliquent.
Allez voter, quelle que soit votre opinion. C'est le temps de se prononcer.
Vous avez tout le pouvoir, là. Ça revient une fois aux quatre ans.
Si tout le monde allait voter, ça se répercuterait dans le résultat.
Voter, c'est pas juste un droit, c'est ton devoir de citoyen.
Exact. Et d'ailleurs, on encourage les gens à aller voter.
Si vous voulez faire comme moi, puis chialer.
Allez voter, Joalvert.
Ben, allez voter.
Tu prends ta décision et tu l'exprimes en toute liberté.
Si jamais tu me cherches le 2 novembre, là, ben, je vais être en train de voter.
Radio X. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Avant qu'on commence, n'oubliez pas que peu importe ce qu'il vous dit, vous n'en tenez pas compte. Il va manipuler votre cœur, puis votre esprit. Ici l'apôtre Bernice James. L'autre personne présente est Bonnie Jackson, sa mère. Seigneur, nous demandons que tu nous sanctifies pour mener à bien cette délivrance. Et Bonnie, reculez.
Si vous avez la foi, alors vous serez sauvés.
Du film La Délivrance dans ce spécial Halloween dans les Radio X-Files. Film que je ne connais pas, Christian Page.
OK. Film de 2024 qui a été réalisé par Lee Daniels, qui met en vedette Andra Day, Glenn Close puis Anthony Jenkins.
Okay.
Et ce film est basé sur les manifestations diaboliques qui entouraient LaToya Hammonds. Cette histoire-là, c'est malheureusement... Hein, l'histoire, à l'origine, elle est extraordinaire. Malheureusement, elle va terminer. C'est une histoire qui s'est terminée dans le burlesque. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on retient de cette histoire-là, c'est le ridicule avec lequel elle s'est terminée.
Bon.
Et qui nous fait malheureusement éclipser tout le reste. Donc, grosso modo, l'histoire, on est en novembre 2011... On a une jeune femme, LaToya Hammonds, elle a 31 ans. Elle va emménager dans une maison de Gary en Indiana. Ça se trouve en banlieue de Chicago. Oui, tu me diras que Chicago, c'est en Illinois, mais il faut dire que Chicago est littéralement sur la frontière de l'Indiana. Donc, à quelques kilomètres de Chicago, on a Gary, mais là, on a franchi la frontière, on est en Indiana. Et donc, c'est un quartier très désœuvré. Elle emménage là, c'est une toute petite maison, elle emménage là avec sa mère, Rosa Campbell, et LaToya Hammonds, elle a 3 enfants, donc 2 garçons et une fille, âgés respectivement de 12, 9 et 7 ans. L'enfant le plus vieux, c'est la fillette, là, elle a 12 ans, et les 2 garçons ont 7 et 9 ans. Donc, en novembre 2011, ils emménagent dans cette maison-là. Assez rapidement, il y a des manifestations qui vont se produire, et ils en viennent, ce sont des gens qui sont croyants, et LaToya Hammonds va en venir à conclure qu'il y a un esprit malveillant qui est dans la maison. Donc, elle va faire venir une médium. Et cette médium va lui dire qu'il y a au moins 200 entités dans sa maison. Donc,
200, gros job. Okay, ouais, oui.
200 entités dans la maison. Donc, gros job. Et éventuellement, je passe rapidement là, dans l'histoire, mais éventuellement, en décembre 2011, donc on est à peu près un mois après l'emménagement dans la résidence, l'école va porter une plainte, va déposer une plainte au service de la protection à l'enfance parce qu'il y a un absentéisme anormalement élevé chez les enfants Hammonds. Donc, l'Organisation pour la protection de l'enfance vont rencontrer Mme Hammonds. Et là, elle leur raconte qu'il y a des phénomènes étranges qui se produisent dans la maison. Les enfants sont terrifiés. C'est la raison pour laquelle elles ne vont pas à l'école, etc. Éventuellement, les enfants seront retirés de la garde de leur mère et ils seront placés en observation clinique. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on a un rapport qui a été transmis par Valérie Washington, qui était une infirmière qui avait charge de maintenir l'observation clinique des enfants. Et elle raconte que durant ces observations cliniques, elle et des médecins qui étaient présents sur place à la clinique ont été témoins de phénomènes fantastiques. Un enfant qui marchait sur les murs, qui sautait en l'air. Bon, il y a des trucs là, que tu dis, c'est impossible. Et pourtant, on a un rapport tout à fait officiel déposé au service de la protection à l'enfance de l'Indiana où ces épisodes sont racontés en détail. Donc, c'est tout à fait aberrant. Et éventuellement, donc, on va conclure qu'il n'y a pas eu d'abus de la part de Latoya Ammons. Elle va retrouver la garde de ses enfants. Mais évidemment, les lieux sont visiblement malsains. Latoya Ammons, de son propre chef, va demander l'aide de l'Église. On va autoriser 3 exorcismes pour la maison, un pour elle et un de ses enfants. Mais éventuellement, ça ne change pas grand-chose. Et éventuellement, la famille Ammons va abandonner cette maison, vont quitter la maison, une maison de location. Hein. Ils vont abandonner la maison et ils vont déménager à Indianapolis. Jusque-là, on a une histoire qui est fantastique. Et on aurait eu envie d'aller plus loin. Mais arrive un espèce de guignol qui s'appelle Zach Bagans. Zach Bagans, qui est un espèce de chasseur de fantômes. Il anime une émission aux États-Unis qui s'appelle Ghost Adventures sur le canal Évasion, ce qui est l'équivalent, en fait, c'est le canal Travels, qui est un peu l'équivalent de notre canal Évasion. Et lui, donc, il va acheter la maison pour 35 000 $ en 2014. Et là, il va tourner un documentaire, Demon House, mais d'un ridicule absolu. Là. Il se promène dans une maison vide, il parle avec des esprits. N'en jetons plus, la cour est pleine. Quand tu tombes dans le ridicule, là, t'es vraiment au summum. Et après avoir tourné son sapristi de documentaire, il va faire une vidéocassette et un DVD de ça, il fait détruire la maison. Et là, évidemment, quand tu dis, mais voyons, attends une minute, là. T'as une maison qui est supposément hantée, qui a des manifestations extraordinaires. Écoute, tous les parapsychologues du monde entier auraient fait la file là, pour pouvoir enquêter sur un truc comme ça, ouais, tu comprends? Parce que c'est ça, le rêve de tous les parapsychologues, c'est de trouver un lieu où il y a des manifestations récurrentes qu'on peut essayer de documenter. Zach Bagans, lui, a détruit la maison. Et quand les gens lui ont posé la question, oui, mais Zach, t'as pas pensé que les parapsychologues dans le monde entier auraient peut-être été intéressés de visiter cette maison-là? Zach Bagans répond, ah, les esprits étaient trop dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait détruire la maison. Mais ils peuvent acheter pour 30 $ ou 29,95 ma vidéocassette. C'est d'un tel ridicule qu'aujourd'hui, quand on parle de l'affaire Ammons, ce n'est plus les manifestations dont était victime la famille Ammons qui retient l'attention. C'est cette espèce d'épisode guignolesque à la toute fin, ouais, où Zach Bagans arrive, achète la maison, tourne son sapristi de documentaire, mais d'un ridicule déconcertant, il fait détruire la maison. C'est ça qu'on retient de l'histoire de Latoya Ammons et non pas les manifestations qui ont été observées par beaucoup de témoins indépendants, dont notamment cette infirmière Valérie Washington. Bref, une bonne histoire qui termine un peu en queue de poisson à cause de cette histoire-là. Donc, c'est la trame de fond du film La Délivrance, film de 2024, qui vaut la peine d'être vu. C'est un film qui est assez intéressant et qui vaut la peine d'être vu, dont on voit d'ailleurs cette séquence où les enfants, lorsqu'ils sont en observation, l'un d'entre eux se met à courir sur le mur, là, avant de faire une pirouette en l'air. C'est quand même assez étonnant.
Oui.
Donc, on va passer à notre quatrième film de la soirée, film que je sais que tu as beaucoup apprécié.
Oui, vraiment.
L'Exorciste du Vatican, un film de 2023. On écoute la bande-annonce.
Père Gabriele Amorte. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme.
Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez ?
Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorte.
Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape.
Il y a un cas qui requiert votre attention.
Amenez-moi le prêtre.
L'enfant a-t-il subi un traumatisme?
Il a vu son père se faire empaler.
Vous pouvez compter sur moi, Julia.
Amy, c'est papa.
C'est toi.
Vous allez tous mourir.
C'est le sceau du Vatican.
L'Église avait déjà combattu ce démon, et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé, et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça ?
Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait ?
Ah, ce film.
Donc, dans la bande-annonce, dès le début, on nous dit « Ah, Père Gabriele Amorte ». Ben oui, bien sûr, c'est celui qu'on suit durant toute l'aventure, ouais, dont on suit les péripéties là, tout le long du film. C'est un film de 2023, réalisé par Julius Avery. Se met en vedette dans le rôle du Père Gabriele Amorte, Russell Crowe. Il y a également Daniel Zovato et Alexandra Esso qui jouent dans le film. Et ce film, il est basé, en fait, sur les mémoires de Dom Gabriele Amorte. Mais qui est Dom Gabriele Amorte? C'est un personnage plus grand que nature. Moi, je l'ai rencontré en 2008. Écoute, il aimait bien se donner des titres. Ouais. Il est décédé. Hein? Ouais. Il est décédé en 2016. Mais il a été... il se présentait comme étant le prêtre en chef de l'exorciste ou l'exorciste du pape. Ça, c'est des titres ronflants qu'il se donnait parce qu'aucun de ces titres-là n'existe en réalité. Dans la réalité, comme dans beaucoup de diocèses, on va nommer un prêtre exorciste. Et Dom Gabriele Amorte a été nommé le prêtre exorciste du diocèse de Rome en 1986. Mais il y a le prêtre exorciste du diocèse de Rome comme il y a le prêtre exorciste de n'importe quel autre diocèse, là, tu sais, donc ailleurs. Donc, c'est pas un statut particulier que Dom Gabriele Amorte avait. Mais il aimait bien se donner ce titre à cause qu'il était au diocèse du Vatican, de se dire qu'il était le pape du Vatican, l'exorciste du Vatican, l'exorciste du pape ou l'exorciste en chef, alors que, bon, c'est des titres un peu ronflants. Et moi, je me rappelle, quand je l'ai rencontré, c'est un type qui aimait un peu le sensationnel et le spectacle. Hein? Ouais. Je faisais une entrevue avec lui. Bon, il écrit énormément de livres durant sa carrière d'exorciste. Hein, il est décédé en 2016. Durant sa carrière, il aurait fait quelque chose comme 60 000 exorcismes. Donc, si tu calcules ça, là, il devait faire comme 4 ou 5 exorcismes par jour. C'est donc où il devait... Soit ça, où il faisait des exorcismes collectifs. Là. Mais bon, il y a comme une espèce d'invraisemblance, mais c'est pas grave. Moi, quand je m'entretenais avec lui, à peu près toutes les 45 secondes, il me brandissait une croix dans le visage. Bon, écoute, bon. Il aimait le spectacle. Et ce film, donc, L'exorciste du pape, ben, c'est une histoire qui est basée sur un des nombreux livres qu'a écrit Dom Gabriele Amorte. Et principalement, son livre, c'est Confession, mémoire de l'exorciste officiel du Vatican. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2012. Et donc, quand je dis sorti en 2012, sorti en langue française en 2012. Là, je parle essentiellement des traductions françaises. Et donc, c'est dans cette histoire-là, ben, il y a ses mémoires. On a fait un peu un mélange de plusieurs exorcismes qu'a fait Dom Gabriele Amorte, qu'on a réunis dans une seule et même histoire. Donc, c'est plusieurs parties de plusieurs exorcismes qui sont réunis dans une histoire. Donc, encore une fois, comme je te dis, Dom Gabriele Amorte est un personnage plus grand que nature. Il aimait se donner des titres ronflants. En 1991, il a fondé l'Association des prêtres exorcistes, hein, donc qui n'existait pas. Et donc, il a été nommé, évidemment, celui qui était en chef de cette association, le leader de l'association. Et après s'être retiré de son ministère, hein, à cause de l'âge, il a cédé sa place. Il a quand même été nommé à la tête de l'association un peu de manière un peu comme il est demeuré le chef, même si c'était plus lui qui dirigeait, mais c'était comme une espèce de marque de respect. Dom Gabriele Amorte avait fondé l'association, donc il est resté le leader de l'organisation jusqu'à son décès, même s'il s'était retiré quelques années avant. Et donc, bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Le film est assez divertissant, ça met en vedette Russell Crowe. On retrouve tous les éléments qui sont propres au genre. Donc, Gabriel Lamorte est un véritable individu qui a bel et bien existé, qui avait un discours très, très tranché. Moi, je me rappelle ce que j'ai surtout retenu de ma rencontre avec Dom Gabriel Lamorte. Il faut savoir que le premier rituel de l'exorcisme, hein, qui a été écrit pour l'Église catholique romaine, il a été écrit, il a été rédigé entre 1610 et 1614. Et donc, c'est ce rituel qu'on utilisait jusque dans les années 80. C'est toujours le même rituel qu'on utilisait. Un peu cette histoire de sort de ce corps démon, là. C'est, tu vois, comme on le voit dans le film L'Exorciste, là. Ouais. Et en 1984, le pape Jean-Paul II a demandé une refonte du rituel de l'exorcisme. Il s'est dit, peut-être, comme le livre a déjà 350 ans, il serait peut-être temps de le remettre un peu à jour. On va peut-être y apporter quelques modifications. Et l'une des grandes modifications qui a été apportée dans cette révision du rituel de l'exorcisme, c'est d'introduire la médecine psychologique ou psychiatrique. Mm-hmm. Donc, on s'est...
Ce qui est logique,
Oui, c'est ça. On s'est dit, bon, ben, au 17e, 18e siècle, la psychologie ou la psychiatrie n'existait pas. Donc aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens peuvent être atteints de maladies mentales et de délire. Donc, dans la refonte du rituel de 1984, on dit avant de conclure qu'une personne est possédée par le diable, ben il faut qu'elle ait passé à travers toute une série de tests, qu'elle ait été vue par des psychologues ou des psychiatres qui vont déterminer que cet individu est bel et bien possédé ou qu'à tout le moins qu'elle ne souffre pas d'une pathologie clinique connue ou reconnue par la médecine traditionnelle avant de conclure à la possession. Et quand je lance ça, moi, à Gabriel Lamorte, il rentre presque dans une espèce de colère. Genre, c'est de la foutaise. Lui, il croit pas du tout à ça. Il dit, oh, on a fait ça parce que... Bon, Jean-Paul II a demandé ça parce que... pour éviter la controverse. Mm-hmm. Mais il dit, moi, là, je me bande pas de ça. Tu sais, lui, là, Gabriel Lamorte, il dit,
au-dessus.
Quand un fidèle... Moi, quand un fidèle vient me voir puis il dit qu'il est possédé, c'est parce qu'il est possédé. Pourquoi perdre mon temps avec les psychologues et les psychiatres? Puis sa dernière réplique, c'est de dire... Puis éventuellement, même si cette personne-là souffre d'un trouble mental, ben, l'exorciser, ça peut pas y faire de tort non plus. Ah bon, tu vois, un peu le principe. C'était vraiment un personnage. Dom Gabriele Lamorte, c'est un personnage qui était vraiment extraordinaire. Et donc, le film L'Exorciste du Vatican, un film assez divertissant, basé sur les soi-disant 60 000 séances d'exorcisme réalisées par Dom Gabriele Lamorte. Et on va passer à notre dernier film de la soirée. C'est La Conjuration 3, Sous l'emprise du diable. On écoute la bande-annonce.
Oui, juste deux petites secondes. La voici.
Hey! Tout va bien, monsieur?
Nom de Dieu.
Je crois que j'ai blessé un homme.
Ici Ed Warren, je suis avec Lorraine. Allez, on commence.
Les habitants de Brookfield sont sous le choc d'avoir appris le meurtre en plein après-midi de Bruno Solz.
La cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable.
Je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était pas Arnie.
C'est un totem de sorcière. On pense que votre famille a été maudite. Et que cet envoûtement est toujours réel.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité.
Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir.
Christian, est-ce que c'est possible de faire le résumé de La Conjuration, troisième volet, en 3-4 minutes?
Absolument. Okay. Donc, dans ce film, on retrouve encore un film de 2021. C'est le troisième volet de la série et de la franchise La Conjuration, sous-titré Sous l'emprise du diable. On retrouve Patrick Wilson et Vera Farmiga, encore une fois, dans le rôle de Ed et Lorraine Warren, nos fameux chasseurs de démons. Donc, ce film est basé sur une affaire criminelle qu'on appelle l'affaire faire Arnie Johnson. Donc, cette histoire-là, pour la résumer simplement, donc on est en juillet 1980, on a un jeune couple qui est Debbie et Gladzel et son petit ami, Arnie Johnson, qui emménage dans une nouvelle maison. Et Debbie a demandé à sa mère de venir l'aider à faire du ménage avant qu'ils emménagent. Donc, sa mère, Jody Gladzel, 44 ans, arrive sur place. Elle est accompagnée de trois de ses garçons, Carl, 14 ans, Alan, 13 ans, et David, qui a 11 ans. Alors qu'ils sont dans la maison à faire du ménage, David va se retrouver dans une chambre, et là, il dit avoir vu une espèce de personnage apparaître au pied d'un lit qui était habillé un peu à l'ancienne, et que ce personnage avait un air un peu menaçant, qui lui a dit « Fais attention à toi » ou un truc comme ça. Et à partir de là, le jeune David Gladzel va présenter des troubles de comportement. Et éventuellement, la famille va conclure qu'il doit être possédé du démon. Ils vont appeler les Warren, puis les Warren vont se rendre sur place. Et évidemment, les Warren ne vont que confirmer le fait que le jeune Gladzel est possédé du démon. Ils vont procéder à un rituel d'exorcisme. Et après ce rituel, qui lui se tient en septembre 1980, donc on est quelques mois après la fameuse visite dans la maison qui était soi-disant hantée. Donc à partir de cet exorcisme, le jeune David Gladzel va retrouver une espèce de quiétude. Mais cette quiétude, en fait, c'est que le démon est passé de David durant la séance d'exorcisme, alors que le prêtre exorcisait le jeune David Gladzel. Sa sœur, Debbie Gladzel, était à son chevet, ainsi que son petit ami qui s'appelle Arnie Johnson. Et durant donc le rituel, Arnie Johnson s'est mis les mains sur David Gladzel et a lancé comme ça « Démon, si tu es là, au lieu de prendre cette jeune victime, prends-moi ». Et bien évidemment, comme vont l'interpréter les Warren, le démon est passé du jeune Gladzel à Arnie Johnson. Ce qui nous amène finalement au 16 février 1981, où il va y avoir une altercation entre Arnie Johnson et un certain Alan Bono, qui est le propriétaire d'un chenil où travaille Debbie Gladzel à ce moment-là. À l'issue de cette altercation, Arnie Johnson va sortir un couteau et poignarder une seule fois. Hein, il va poignarder Alan Bono, il va le poignarder directement au cœur et Alan Bono va décéder. Il va y avoir un procès pour homicide involontaire et les Warren, pas les Warren, mais l'avocat d'Arnie Johnson va essayer de plaider, contrairement à ce qu'on voit dans le film, là, il va essayer de plaider au tribunal que Arnie Johnson était possédé par le démon. Il va demander à faire citer les Warren comme témoins experts, mais bon, les Warren vont venir déposer, mais le jury n'est pas présent et le juge va rejeter cette proposition de défense. Hein, il dit à l'avocat de la défense, qui est le maître Minelli, il dit, tu vas retourner à ta table de dessin, là, puis tu vas me présenter une autre défense que possédée par le démon, parce que ça, c'est pas une défense. Fait qu'éventuellement, ils vont plaider coupable à une agression moindre d'homicide involontaire. Arnie Johnson va être condamné à 10 ans de prison. Il va faire quelques années pour être libéré. Mais bon, c'est un peu cette histoire, cette affaire judiciaire assez particulière qui s'est tenue à Danbury, au Connecticut, qui va alimenter la trame de fond de ce film, La Conjuration 3, que là, j'ai trouvé, je dois l'avouer, moi, quand j'ai vu ce film, là j'ai trouvé qu'on avait beurré épais avec du démon, là, plus qu'on en veut. Là. Ouais. Mais bon, c'est la caractéristique des films La Conjuration. Si on tourne autour des aventures de Ed et Lorraine Warren, faut s'attendre à voir beaucoup de démons là-dedans.
Christian, c'est tout le temps qu'on a pour ce spécial Halloween. J'espère qu'on aura inspiré certains auditeurs à peut-être se plonger dans l'horreur.
Oui, en cette soirée de l'Halloween.
Oui, voilà. Alors, bonne soirée d'Halloween et bon week-end également. Puis on se reparle vendredi prochain.
Absolument.
Merci, Christian Page.
Ciao.
À bientôt. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 et Radio X. Et la sexploratrice en mode Halloween s'installe après ceci.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Ready!
Procurez-vous votre forfait pour le tailgate Radio X.
Radio X.
Du Roger en football.
Football!
Pour le premier match des séries éliminatoires le 1er novembre prochain.
Let's go!
Pour 49$ plus taxes, le forfait comprend ton billet pour le match, une bière de la microbrasserie de la cour arrière, une pointe de pizza de Stratos Pizzeria, un hot dog offert par Rêve Sportif, un demi-sandwich smoked meat de Brin Smoked Meat, un morceau de poulet frit Dixili, une bouchée sucrée Domers la boîte à beigne et une dégustation de la distillerie Stadacone. Achetez votre forfait au boutique.radiox.com. Faites vite! Quantité limitée. Une collaboration anti-rouille Crown. Trouve le centre le plus près au crown.com. Radio X.
C'est la grosse vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet format club à 4,99 la livre, 11$ le kilo. Les lanières de poulet Flamingo à 6,50 et le filet de saumon à 8,77 la livre, 19,33 le kilo. Pas de circulaire par la poste? Plus de rabais en ligne sur maxi.ca.
Au groupe JD, on fait mieux que des records de vente. On fracasse des records de rabais. Et l'événement Rabais Record chez Alfa Romeo de Québec, ça permet de louer pendant 24 mois un Alfa Romeo Tonale PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable, pour seulement 699$ par mois, sans comptant. C'est aussi fou que vrai. 699$ par mois pour un Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Détails sur place. Alfa Romeo de Québec, sur le boulevard Sainte-Anne, à une minute des chutes.
Flore Déco. Pour vos petits et grands projets, nos experts vous accompagnent à chaque étape. Parce que Flore Déco, c'est beaucoup plus que des planchers. Et jusqu'au 23 novembre, profitez de rabais allant jusqu'à 50%.
floredeco.ca.
VapoShop, c'est votre boutique d'articles pour vapoteurs et fumeurs. VapoShop, c'est aussi un service à la clientèle hors pair et des produits de qualité pour tous les styles d'utilisateurs. Visitez-nous à Lévis, Montmagny et dans 8 boutiques dans la grande région de Québec. VapoShop.ca.
Il manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan t'a écrit 40 heures alors qu'il y avait un férié. Vous passez trop de temps à comptabiliser les heures sur des bouts de papier. Utilisez Mobile Punch et dites adieu aux problèmes de feuille de temps. MobilePunch.com. Déjà plus de 35 000 utilisateurs.
Chaque année, les clients attendent au mois de mars pour acheter leur piscine ou leur spa, pensant les faire installer en avril, ce qui peut être difficile dû à l'engouement du printemps. Alors cette année, pour la première fois, Trévis vous fait une offre exceptionnelle, soit celle d'ouvrir ses calendriers d'installation dès maintenant, pour vous permettre de bénéficier des premières plages d'installation au printemps 2026 et pour que vous en tiriez profit au maximum l'an prochain. Une autre raison de réserver maintenant est de profiter de la super vente « Payer le prix des employés ». Offert par le fabricant installateur Trévis et disponible pour un temps limité et sur une foule de produits sélectionnés. Piscine creusée, piscine en béton, piscine hors terre, spa, mobilier de jardin, pavillon outdooring, barbecue et également les toiles, les robots, les chauffe-eau, même sur les abris d'auto. Prenez une